L'éleveur d'abeilles par Arthur Conan Doyle. 8 heures du soir, le 2 août, le deuxième jour du plus terrible mois d'août qu'ait vu l'histoire du monde. Une sorte de paix effrayante mêlée à un sentiment de vague expectative régnait dans l'air suffocant et immobile. Le soleil s'était depuis longtemps couché, mais une entaille rouge traversait le bas du ciel à l'ouest comme une blessure saignante. Au-dessus, les étoiles brillaient d'un vif éclat. Au-dessous, les feux des navires tremblotaient dans la baie. Deux Allemands se tenaient debout contre le parapet du jardin. Derrière eux s'allongeait la maison trapue aux lourds pignons, et ils contemplaient la vaste étendue de grève au pied de la falaise crayeuse, où Von Borck était venu, 4 ans auparavant, jucher son air. Leurs têtes se touchaient presque, et ils se parlaient à mi-voix, d'un ton de confidence. Un homme remarquable que ce Von Borck. On n'eût pas trouvé son pareil entre tous les agents du Kaiser. Ses talents, qu'il avait d'emblée recommandés pour une mission en Angleterre, n'avaient cessé de devenir chaque jour plus manifestes pour la demi-douzaine de personnes qui, de par le monde, se trouvaient en position de savoir. Une de ces personnes était le baron von Herling, secrétaire en chef de l'ambassade, dont l'énorme 100 chevaux bloquait le petit chemin rural en attendant de ramener son propriétaire à Londres. « Maintenant, disait le secrétaire, les événements se précipitent, conformément à l'horaire établi. Si j'en juge par la marche des événements, vous serez de retour à Berlin dans la semaine. Vous ne vous étonnerez pas, mon cher von Borck, de l'accueil chaleureux qu'on vous y réserve. Je sais le cas qu'on fait en haut lieu de votre travail dans ce pays. » Von Borck se mit à rire d'un air de demander grâce. « Vous me flattez, baron. Il est vrai, au demeurant, que les 4 années que j'ai passées dans ce pays n'auront pas été improductives. Je ne vous ai jamais montré ma petite collection de documents. Cela vous dérangerait-il d'entrer pour une minute ? » La porte du cabinet de travail donnait sur la terrasse. Von Borck l'ouvrit, et passant le premier, toucha le commutateur. Puis il referma la porte derrière la haute silhouette qui le suivait, et tendit avec soin le lourd rideau contre la fenêtre treillagée. Alors seulement, toutes ses précautions prises. Il tourna vers son hôte un visage d'aigle brûlé par le soleil. « J'ai déjà expédié quelques-uns de mes papiers, » dit-il. Ma femme et mes gens, partis hier pour Flushing, se sont chargés des plus importants. Pour les autres, je réclamerai la protection de l'ambassade. Tout est réglé. Vous figurez sur la liste des personnes à la suite. Vous n'éprouverez de difficultés ni pour vous ni pour vos bagages. Sans doute, il se peut que nous n'ayons pas à partir et que l'Angleterre abandonne la France à son destin. Nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de traité entre elles. Et la Belgique? Oh, là aussi, nous sommes tranquilles. Von Borck cocha la tête. Il y a un traité formel en ce qui la concerne. Ne pas intervenir serait pour l'Angleterre la fin de tout. Jamais elle ne se relèverait de cette honte. Du moins, elle aura la paix pour le moment. Le secrétaire s'était assis dans un fauteuil. L'électricité faisait reluire son crâne chauve. Tirant de tranquilles bouffées de son cigare, il observait tous les mouvements de von Borck. Des livres garnissaient la vaste pièce au lambris de chêne. Un rideau pendait dans un coin. Von Borck l'écarta, découvrant un large coffre-fort à armature de cuivre. Puis il détacha une petite clé fixée à sa chaîne de montre et après une longue manipulation de la serrure, il ouvrit le lourd battant. « Regardez » dit-il en s'effaçant avec un grand geste. L'intérieur du coffre apparaissait en pleine lumière. Le secrétaire d'ambassade s'absorba dans la contemplation des rangées de cases, toutes regorgeantes de papier, chacune portant une étiquette. Ses yeux, promenés des unes aux autres, pouvaient lire des titres tels que « Au fond, défense des ports, aéroplane, Irlande, Égypte, port de Portsmouth, la Manche, Rosyth. » Ce n'était que plan et document. Il déposa son cigare, fit claquer ses mains grasses. « Colossal, » dit-il. « Et tout cela en 4 ans, baron. Pas trop mal travaillé pour un gentilhomme campagnard, buvant sec et trop tendu. Mais j'attends la perle de ma collection. Elle vient. Et voici l'écrin que je lui destine. » Il désignait un casier vide où se lisait l'inscription « Signaux maritimes ». « Mais vous aviez déjà tout un dossier sur les signaux. Périmés, hors d'usage. L'amirauté a eu vent de quelque chose, tous les codes ont été changés. Heureusement, grâce à mon carnet tchèque et à l'excellent Altamont, j'aurai tout réparé ce soir même. » Le baron regarda sa montre, jeta une exclamation. « Vraiment, je ne puis rester davantage. « Songez que les choses vont leur train sur les terrasses du Carlton et que nous devons tous être à notre poste. J'espérais y porter la nouvelle du grand coup. Altamont ne vous avait-il pas fixé une heure ? Von Borg poussa devant lui un télégramme. « Viendrait ce soir avec bougie d'allumage, Altamont. »« Bougie d'allumage, qu'est-ce que cela signifie ?»« Altamont se donne la qualité d'expert en auto, et j'ai des autos pleins mon garage. » Dans notre langage conventionnel, tout ce qu'il croit pouvoir me fournir prend le nom d'une pièce de machine. Un radiateur désigne un navire de guerre, une pompe à huile un croiseur, et ainsi de suite. Par bougie d'allumage, comprenez le code des signaux. « Expédié de Portsmouth à midi, » fit le secrétaire, examinant le télégramme. « À propos, combien lui donnez-vous à votre Altamont ?»« Pour cette affaire spécialement, 500 livres, sans préjudice de ses émoluments réguliers. » Le drôle allait dans l'ongle. « Je ne marchande rien, Altamont. C'est un agent merveilleux. S'il se fait payer, du moins, selon son expression, il nous en donne pour votre argent. Puis ce n'est pas un traître. Le plus pan-germaniste de nos junkers fera l'effet d'une colombe en regard de ce farouche irlando-américain. Ah, c'est un irlando-américain. Vous l'entendriez parler que vous n'en douteriez pas. Parfois, ma parole, j'ai peine à le comprendre. Il semble avoir déclaré la guerre à tous les Anglais, en particulier non moins qu'au roi d'Angleterre. Sérieusement, il faut que vous partiez. Notre homme peut arriver d'un instant à l'autre. Je le regrette, mais je suis déjà en retard. Nous comptons sur vous pour demain matin à la première heure. Et quoi, du toquet ? Le secrétaire montrait du doigt une bouteille poussiéreuse qui se dressait entre deux longs verres sur un plateau d'argent. Puis-je vous en offrir un verre avant le voyage ? Non, merci, mais il me semble que vous traitez bien. Altamont s'est pris de sympathie pour mon toquet. C'est un garçon dont il convient de flatter les petits caprices. Sa collaboration a pour nos projets une importance capitale. Je lui dois des ménagements. Les deux hommes avaient à petits pas regagné la terrasse. Comme ils en atteignaient l'extrémité, le chauffeur du baron tourna la manivelle, l'énorme auto trépida et ronfla. Ces lumières qu'on aperçoit, ce sont, je présume, celles de Harwich, dit le secrétaire en endossant son cache-poussière. Comme tout cela respire le calme, la paix. Il se peut qu'il y ait par là d'autres lumières cette semaine et que la côte anglaise devienne un séjour moins tranquille, pour peu que se réalisent les promesses du bon Zeppelin. Mais à propos, qu'y avez-vous donc là ? Une seule fenêtre derrière eux était éclairée. On voyait à l'intérieur une lampe, et près de la lampe, assise à une table, une vieille femme à l'honnête figure rougeaude, en bonnet paysan. Elle tricotait, penchée sur son ouvrage, et s'arrêtait de temps à autre pour caresser un gros chat noir posé sur un tabouret. « C'est Marthe, la seule domestique que j'ai gardée. » Le secrétaire se mit à rire. « Elle pourrait presque, » dit-il, personnifier la Grande-Bretagne avec son air de complète absorption en elle-même et de béate somnolence. « Allons, au revoir, Von Borg. » Il agita la main en signe d'adieu, sauta dans l'auto, et la minute d'après, les deux grands cônes dorés des phares bousculaient devant eux les ténèbres. Renversés sur les coussins de la luxueuse limousine, n'ayant ne pensé que pour le drame qui menaçait l'Europe, il ne prit pas garde qu'en tournant la rue du village, son auto manqua de prendre en écharpe une petite Ford qui arrivait en sens opposé. Quand se fut évanoui au loin le dernier rayon des phares, Von Borg regagna lentement son cabinet de travail. En passant, il remarqua que sa vieille gouvernante avait soufflé la lampe et quitté la place. Il éprouvait un soulagement à l'idée que, sauf la vieille femme qui s'attardait dans la cuisine, il ne restait plus que lui dans la maison. Il avait encore à rendre la place nette. Il se mit à la besogne, et bientôt son beau visage intelligent était rouge de la chaleur des papiers qu'il brûlait. Une valise de cuir se trouvait auprès de lui sur sa table. Il commença d'y ranger le contenu du coffre-fort. À ce moment, son oreille perçut le bruit lointain d'un moteur. Il poussa un cri de satisfaction, reboucla les courroies de sa valise, referma le coffre et se hâta vers la terrasse. Il y arriva pour voir une petite auto s'arrêter devant la grille. Un voyageur s'élançait de la voiture et s'avançait rapidement vers lui, tandis que le chauffeur, un homme entre deux âges, à moustache grise, mais solidement bâti, s'installait sous le siège de l'air de quelqu'un qui se résigne à une longue veille. Von Borg courut à la rencontre de son visiteur. « Eh bien ? » demanda-t-il avec impatience. Pour toute réponse, l'autre, d'un geste de victoire, brandit au-dessus de sa tête un petit paquet enveloppé dans un papier brun. « Ce soir, maître, on peut se donner la joyeuse poignée de main. C'est du nanan que j'apporte. Les signaux ? J'ai tout. sémaphore, projecteur, radiotélégraphie. Une copie, bien sûr, pas l'original. Le vendeur m'aurait fort bien remis le livre même. Mais ceci est suffisamment authentique, vous pouvez vous y fier. » Il tapa sur l'épaule de Von Bork avec une familiarité si rude qu'elle lui fit froncer le sourcil. « Entrez, » dit l'Allemand, « je suis seul dans la maison, je vous attendais. » « Oui, certainement, une copie vaut mieux que l'original. Si l'original venait à disparaître, on changerait tout le code. Cette copie est absolument digne de confiance, n'est-ce pas ?» À peine entré, l'Irlandais avait pris possession du fauteuil et y étalait ses longs membres. C'était un homme d'une soixantaine d'années, maigre, avec des traits bien découpés, une petite barbiche qui lui donnait un air de ressemblance avec les caricatures de l'oncle Sam. Un cigare à demi-fumé pendait au coin de sa bouche. Son premier soin fut de frotter une allumette pour le rallumer. « Alors, nous nous apprêtons à décamper ? » fit-il, en inspectant le cabinet d'un regard circulaire. Et ses yeux ayant rencontré le coffre, le rideau était toujours écarté. « Dites donc, maître, ce n'est pas dans ce truc-là que vous gardez vos papiers, je suppose. Pourquoi pas ? Mon Dieu, mais avec un tire-bouchon, le moindre cambrioleur yankee en ferait son affaire. Si j'avais pu me douter que mes lettres ne fussent pas mieux protégées, j'aurais été un grand fou de vous en écrire une. » « Je défie bien tous vos cambrioleurs de forcer ce coffre, » répondit Von Bork. « Aucun outil n'en pénétrerait le métal. Mais la serrure. Serrure à double combinaison. Vous savez ce que cela veut dire ?»« Pas plus que ça, » dit l'Américain, avec un haussement d'épaule. « Eh bien, pour la faire jouer, il vous faut un mot et un nombre à plusieurs chiffres. » Von Bork, se levant, montra le double disque qui rayonnait autour de la serrure. « Le disque intérieur est pour les chiffres, le disque extérieur pour les lettres. » « Ah, ça, ma foi, c'est très bien. De sorte que l'opération ne va pas toute seule. Il y a 4 ans que j'ai ce meuble, et que, croyez-vous, que j'ai choisi comme mot et comme nombre ? Je ne vois pas. Comme mot, août, comme nombre, 1914. Août 1914, nous y sommes. » La face de l'Américain exprima une surprise mêlée d'admiration. Chouette, alors. C'était de la clairvoyance. Oui, peu d'entre nous, à ce moment, auraient deviné cette date. Nous y sommes, je le répète. « Je ferme boutique demain matin. J'espère que vous n'allez pas me planter là. Je ne me soucie pas de rester en panne dans ce satané pays. D'ici une semaine, John Bull sera sur ses pattes de derrière et fera de jolies gambades. Je goûterai mieux ce spectacle une fois passé l'eau. Mais vous êtes citoyen américain. Jack James l'était aussi, n'empêche qu'on a logé à Portland. À propos de Jack James, il ne me semble pas, maître, que vous vous préoccupiez beaucoup de couvrir vos hommes. Qu'est-ce que ça dit ? Interrogea Von Bork d'un ton piqué. James, vous le savez, n'en faisait qu'à sa tête. Mais après James, il a eu Hollis, un braque, et il y a eu encore Steiner. Von Bork fit un sursaut, et de rouge de ma pâle. Eh bien quoi, Steiner ? On l'a coffré, voilà. On a fait chez lui une visite un peu brusque l'année dernière, puis on l'a expédié à la prison de Portsmouth. Vous comprendrez dans ces conditions que je tienne comme vous à passer l'eau. Von Bork était un homme chez qui le sang-froid s'ajoutait à l'énergie, mais ce qu'il venait d'entendre l'avait visiblement ému. « Comment Steiner se sera-t-il laissé pincer ? » murmura-t-il. « C'est le coup le plus fâcheux qu'on nous ait encore porté. Vous risquez d'en recevoir un plus grave, je crois qu'on me tient de l'œil. »« Ce n'est pas possible. C'est sûr. Du côté de Fracton, où j'habite, on a commencé à cuisiner ma logeuse. Il n'est que temps pour moi de plier bagages. Mais j'aimerais savoir, maître, comment il se fait que la police soit si bien tuyautée ? Steiner est le 5e agent que vous perdez depuis que je l'y ai parti avec vous. Comment expliquez-vous cela ? Je me suis laissé compter que vous autres politiciens allemands, quand un de vos agents a fait ce qu'il avait à faire, vous n'êtes pas fâché de le voir mis à l'écart et protégé contre la tentation de bavarder. Von Bork se dressa d'une pièce. Vous insinuez que je lâche mes hommes ? Je prétends qu'il y a quelque part un bis, une paille, à vous de savoir où. Je ne veux plus courir de chance. Plus tôt je partirai pour la Hollande, mieux cela vaudra. » Von Bork avait dominé sa colère. « Nous sommes de trop vieux alliés, » dit-il, pour nous disputer à l'heure même de la victoire. « Allez en Hollande. De là, vous pourrez nous rejoindre à Berlin ou vous embarquer à Rotterdam pour New York. Dans 8 jours, aucune autre ligne de bateau ne sera sûre. Mais finissons-en, Altamont. Donnez-moi ce livre pour que je l'emballe avec le reste. » L'Américain, tenant toujours le paquet, ne faisait point mine de s'en dessaisir. « Et la galette ? » demanda-t-il. « Hein ? L'argent, la récompense honnête, les 500 livres. » Notre compère a fini par devenir terriblement exigeant. « $100 de plus ou rien de fait, » disait-il. et ça n'était pas de la frime. J'ai dû en passer par les 100 dollars. Bref, de tête en queue, j'y suis de mes 200 livres. Vous ne voulez pas que je lâche la marchandise sans garantie. Von Borg sourit d'un air d'amertume. Vous avez une piètre idée de ma probité, il me semble, pour réclamer l'argent avant de remettre le bouquin. Eh bien quoi, maître? Il s'agit d'un marché, je vous fais une offre. Soit. Von Borg s'assit à son bureau, griffonna un chèque, détacha la feuille de son carnet, et au moment de s'en séparer. Après tout, monsieur Altamont, dit-il, je ne vois pas pourquoi je vous ferai plus de crédit que vous ne m'en faites. Voici le chèque sur la table. Je demande à examiner le livre avant que vous n'ayez l'argent. L'Américain, sans dire un mot, lui passa le paquet. Von Borg dénoua la ficelle, défit une double enveloppe et demeura une minute immobile, muet de stupeur, les yeux écarquillés. Devant lui était posé un petit volume sur la couverture duquel se lisait en lettres d'or « Traité pratique de l'élevage des abeilles ». Le maître espion n'eut pas le temps de s'attarder dans la contemplation de ce titre incongru. Soudain, une poigne de fer l'agrippait derrière le cou. Sur son visage s'appliquait une éponge de chloroforme. Au même instant, un autre personnage entra dans la pièce. « Un autre verre, Watson ?» dit Sherlock Holmes, en penchant le pot d'un flacon de toqué impérial. « Buvons au jour fortuné qui nous rend l'un à l'autre. » Assis devant la table, le robuste chauffeur s'empressa de tendre son verre, et quand il eut fait raison de tout cœur à celui qui l'y conviait, « Un bon vin, Holmes, » dit-il. « Un vin remarquable, Watson. » Votre ami que voilà en train de ronfler sur le divan m'a certifié qu'il provenait de la cave même de François-Joseph à Schönbrunn. Puis-je vous demander d'ouvrir la fenêtre? Les vapeurs du chloroforme n'aident pas à la sensibilité du palais. Le coffre-fort était entrebâillé. Holmes en retirait les dossiers un par un, les examinait d'un coup d'œil, puis les rangeait avec soin dans la valise de Von Borg. Allongé sur le divan, l'Allemand faisait entendre un ronflement sonore. Une courroie lui liait le sommet des bras, une autre les jambes. Rien ne nous presse, Watson. Nous n'avons pas à craindre qu'on nous dérange. Voulez-vous prendre la peine de sonner? Il n'y a plus dans la maison que la vieille Marthe qui a joué admirablement son rôle. C'est moi qui lui procurais ici sa place le jour où j'ai pris l'affaire en main. Eh bien, Marthe, vous allez être contente, tout va pour le mieux. Les mêmes vieilles venaient d'apparaître. Elle fit, en souriant la révérence à Holmes, non sans se défendre de diriger un regard inquiet vers le divan. Assurez-vous, il n'a aucun mal. J'en suis heureuse, monsieur Holmes. Il s'est conduit envers moi comme un bon maître. Il voulait hier me faire partir pour l'Allemagne avec sa femme, et cela contrariait vos projets, n'est-ce pas? En effet, Marthe. Tant que je vous savais là, j'étais tranquille. Nous avons un peu attendu votre signal ce soir. Il y avait le secrétaire, monsieur, le grand gentleman venu de Londres. Vous ne m'apprenez rien. Son auto a croisé la nôtre. Je croyais qu'il ne s'en irait pas. Je me figurais bien que vous ne teniez pas à le rencontrer. Sans doute. Et c'est pourquoi nous avons entendu au sommet de la côte le moment où votre lampe, en s'éteignant, nous préviendrait que le champ était libre. Venez me trouver demain matin à Londres, au Claridge Hotel. Entendu, monsieur. Je suppose que votre maître avait tout préparé pour le départ. Oui, monsieur. Il a expédié aujourd'hui 7 lettres. J'en ai les adresses comme d'habitude. Il en a reçu 9 que j'ai pareillement notées. Parfait, Marthe. Je regarderai tout cela demain matin. Bonne nuit. Là-dessus, la bonne vieille s'étant éclipsée, Holmes continua. Assurément, ces papiers n'ont que peu d'importance. Il y a beau temps que le gouvernement allemand est en possession des renseignements qu'ils contiennent. Ce sont des originaux qu'il n'eût pas été prudent de faire voyager. Alors, ils sont inutiles? Je n'irai pas jusqu'à dire cela à Watson. Ils montreront du moins aux nôtres ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Je vous avouerai qu'un grand nombre de ces documents sont arrivés à Von Borg par mon intermédiaire. Ce qui me dispense d'ajouter qu'il ne mérite aucune créance. La vue d'un croiseur allemand qui naviguerait dans le Solent, conformément à mes indications sur l'emplacement du champ de mine, serait un spectacle à illuminer la fin de ma carrière. Mais vous, Watson? Holmes s'arrêta dans son travail pour prendre son vieil ami par les épaules. C'est à peine si je vous ai aperçu en plein jour. Comment vous traitent les années? Parbleu, vous semblez toujours si gai ou si jeune. Rajeuni de 20 ans, Holmes. Je ne me suis jamais senti si heureux qu'en recevant le télégramme où vous me demandiez de venir vous prendre à Harwich avec l'auto. Vous non plus, vous n'avez guère changé. N'était-ce cette horrible barbiche? Il y a des sacrifices qu'on fait pour son pays, Watson, dit Holmes, en caressant la petite touffe de poils. Demain, il ne restera plus de ceci qu'un affreux souvenir. Mes cheveux coupés, il suffira de quelques transformations superficielles pour que je reparaisse au Claridge tel que j'étais lorsqu'on vint me chercher pour cette affaire d'Amérique. Mais vous aviez pris votre retraite, Holmes. On vous disait, menant une vie d'ermite au milieu de vos abeilles et de vos bruyères dans une petite ferme des dunes méridionales. On ne se trompait pas. Voici le fruit de mes loisirs, le magnum opus de mes dernières années. Il prit le volume sur la table et en lut tout haut le titre. Traité pratique de l'élevage des abeilles avec quelques observations sur le choix de la reine. Mais d'où vient que vous ayez repris du service ? Le ministre des Affaires étrangères eût été seul à m'en prier que j'aurais pu tenir tête, mais quand le premier ministre en personne daigna visiter mon humble toit, le fait est, Watson, que le personnage étendu sur ce divan réclamait une autre attention que celle de notre police ordinaire. C'était un monsieur hors classe. Il se passait des choses graves. On ne s'expliquait point. On se méfiait de certains individus. On en pinça même quelques-uns. Mais, évidemment, il dépendait d'une force centrale, puissante et mystérieuse, qu'il devenait nécessaire de démasquer. On me pria d'étudier la chose à fond. Si je vous dis que tout d'abord je partis pour Chicago, qu'ensuite à Buffalo, je m'affiliai à une société secrète irlandaise, que je donnais de sérieux ennuis à la police de Skibbereen, qu'ainsi, finalement, j'attirai les regards d'un sous-ordre de Von Bork, vous comprendrez que la question était complexe. Depuis, Von Bork m'a honoré de ses confidences, ce qui n'a pas empêché qu'on déjouât subtilement la plupart de ses projets et qu'on arrêtât 5 de ses meilleurs agents. Je les surveillais, Watson. Je les cueillais quand il me semblait mûr. Eh bien, monsieur, ça ne va pas trop mal, j'espère. La question s'adressait à Von Bork, qui, après bien des efforts pour reprendre haleine, après bien des clignements d'yeux, était demeuré immobile, écoutant les déclarations de Holmes. Le visage convulsé de fureur, il se mit à vomir un flot d'invectives allemandes. Cependant, Holmes continuait de passer rapidement en revue les documents enlevés du coffre. L'allemand, bien que peu musical, est la plus expressive des langues, dit-il enfin, quand Von Bork se fut arrêté à bout de force. Tiens, tiens, ajouta-t-il, en regardant avec beaucoup d'intérêt le coin d'un calque avant de le placer dans la valise. Voici de quoi faire mettre en cage un autre oiseau. Je me méfiais depuis longtemps du trésorier payeur, mais je n'aurais pu penser qu'il fût une telle canaille. Sapristi, maître Von Bork, vous allez avoir fort à faire pour vous défendre. Le prisonnier avait réussi, non sans peine, à se soulever sur le divan, et il considérait Holmes avec une stupéfaction mêlée de colère et de haine. « J'aurai ma revanche, Altamont, » dit-il lentement, d'un ton délibéré. « Quand j'y devrai travailler toute ma vie, j'aurai ma revanche. »« Chanson, » dit Holmes, « que de fois j'ai entendu cet air-là naguère. C'était le motif favori du regretté professeur Moriarty. On l'entendit moduler par le colonel Sébastien Moran. Pourtant, je vis toujours, et j'élève des abeilles sur les dunes méridionales. » L'Allemand se débattait dans ses liens. Il y avait au fond de ses yeux la flamme du meurtre. « Maudit soyez-vous, double traître » s'écria-t-il. « mais non, vous exagérez !» dit Holmes, souriant. « Comme vous le démontrent mes discours, M. Altamont de Chicago n'avait pas en fait une existence. C'était une fiction, un mythe, un des fils dont se compose la trame de mes nombreuses personnalités. Je n'ai plus besoin de lui, je le supprime. Alors, qui êtes-vous ? Détail sans importance. Cependant, puisqu'il semble vous intéresser, je vous dirai, M. Von Bork, que je connais d'assez longue date votre famille. J'ai fait jadis bien des affaires en Allemagne et sans doute n'ignorez-vous pas mon nom. Je l'apprendrai volontiers, dit Von Bork d'un air farouche. C'est moi qui amenais entre Irène Adler et le feu roi de Bohême la séparation négociée par votre cousin Heinrich au nom de l'empereur. C'est moi qui empêchais le nihiliste Kloppmann d'assassiner von und zu Grafenstein, frère aîné de votre mère. C'est moi qui... » Von Bork se redressa, ébahi.
« Il n'y a qu'un homme, » s'exclama-t-il.
« Précisément, » dit Holmes. Von Bork se laissa retomber sur le divan et dans un grondement de rage. « Voilà ma vie ruinée. Je vous dois la plus grande partie de mes informations. Qu'ai-je fait et que valent-elles ? Pas grand-chose, assurément, » dit Holmes. « Tout cela demande à être revu de près. » Et vous n'allez plus avoir beaucoup de temps pour cette révision. Peut-être votre amiral s'apercevra-t-il que vos nouveaux canons sont un peu plus gros qu'il ne s'y attend, et nos croiseurs un peu plus rapides, sans préjudice de quelques nouveautés qui lui procureront des surprises. Vous concevez, j'imagine, monsieur Holmes, que si votre gouvernement prend la responsabilité de vos procédés, cela devient un acte de guerre.
Que pensez-vous,
répliqua Holmes en tapant sur la valise, de votre gouvernement à vous et de ses procédés?
Vous êtes un simple particulier, non qualifié pour m'arrêter. Votre façon d'agir est illégale.
Absolument, dit Holmes.
Vous violentez un citoyen allemand. Et je lui vole ses papiers.
Donc, vous vous rendez compte de votre situation, vous et votre complice. Et si j'appelais au secours en traversant le village?
Mon cher monsieur, si vous faisiez quelque chose d'aussi déraisonnable, vous donneriez probablement à notre modeste auberge de village le droit de prendre pour enseigne vos Prussiens pendus. L'anglais a bien de la patience, mais il est en ce moment-ci un peu échauffé. Autant vaut-il ne pas le pousser à bout.
Vous allez venir avec nous, bien tranquillement jusqu'à Scotland Yard. Là, vous pourrez envoyer chercher votre ami le baron von Herling et voir si vous êtes encore permis de prendre la place qu'on vous réserve dans la suite de l'ambassade.
Holmes et Watson s'attardèrent quelques minutes sur la terrasse, bavardant à cœur ouvert, évoquant une fois de plus les souvenirs du passé, cependant que leur prisonnier se démenait entre ses cordes. Au moment où il s'en revenait vers l'automobile, Holmes, d'un geste, montrait la mer illuminée par le clair de lune et hocha la tête.
« Le vent souffle de l'est, Watson. »
« Je ne crois pas, Holmes. Il est très chaud. »« Mon bon, mon cher Watson, seul point fixe au milieu d'une époque qui change. »« Oui, c'est bien de l'est tout de même que souffle le vent. »« Et un vent comme il n'en est encore jamais passé sur l'Angleterre. »« Il sera glacial et âpre. »« Peut-être sera-t-il mortel pour beaucoup d'entre nous. »« N'importe, c'est le vent de Dieu. »« Et il y aura sous le soleil une terre purifiée, améliorée, revivifiée, le jour où s'apaisera la tempête. »« En marche, Watson. » Il est temps de partir. Un chèque de 500 livres qu'il faut que je touche au plus vite, car le tireur, cet animal que voici, serait bien capable d'y mettre opposition s'il en trouvait le moyen.
Ainsi s'achève L'éleveur d'abeilles par Arthur Conan Doyle.